BFM Business présente...
Tous les jours, j'entends quoi ? De nouvelles solutions, de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire. Mais
vous avez dit qu'il y a un vrai souci, alors... il faut créer de l'emploi.
Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit.
Il suffit d'écouter BFM Business.
Voilà, magnifique.
Guillaume Paul, Good Evening Business.
Il est bientôt 18h, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM Business. Dans l'actualité ce soir, cette fois on peut le dire, l'horizon est cette fois, mais alors totalement bouché pour Atos, puisqu'Airbus a confirmé ce matin qu'il n'était plus candidat au rachat de certaines de ses activités. Que va-t-il se passer? Que peut-il se passer désormais? On va voir ça avec Mathieu Pechberti dans un instant. Sinon... on parlera de Bruno Le Maire qui était à Berlin aujourd'hui pour évoquer alors vraiment ce qui s'appelle un vieux serpent de mer. Il l'a dit, il faut faire l'union des marchés de capitaux en Europe. Il n'y a pas le choix si on veut drainer toujours plus d'épargne du privé pour favoriser la création de géants européens dans la tech, dans la transition écologique, pour rivaliser avec les Américains et les Chinois. Oui, sauf que ça fait des années qu'on en parle. Et on va en reparler bien sûr ce soir sur BFM Business. On parlera tout ça avec nos experts qui arrivent dans un quart d'heure bien sûr dans Good Evening Business. Et puis auparavant, c'est Jean-Pierre Champion, le patron du réseau d'opticiens Chris, qui sera lui l'invité d'Edwige Chevrillon à 18h10. Voilà le programme non exhaustif bien sûr. On est ensemble jusqu'à 20h. Très bonne soirée.
Good Evening Business, le journal.
Mathieu Pechberti, bonsoir.
Bonsoir.
Donc,
Guillaume,
si on se résume d'un côté, mais vous nous l'annonciez dès hier soir, Mathieu, Airbus n'est plus candidat au rachat de la cybersécurité et du big data d'Atos. D'un autre côté, rappelons-le, Daniel Kretinsky n'est plus candidat depuis quelques semaines au rachat de l'infogérant. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien du tout à racheter du côté d'Atos. Qu'est-ce qui peut se passer désormais, Mathieu, finalement ?
Écoutez, effectivement, Atos aujourd'hui est dans une situation extrêmement compliquée, presque dans un corner qui va l'obliger à rentrer dans une phase de restructuration massive de sa dette. Je rappelle qu'il y a Atos à 4,5 milliards d'euros de dette, dont quasiment l'essentiel, plus de 3,5 milliards d'euros sont à rembourser avant la fin de l'année 2025. Donc, c'est-à-dire qu'il faut avoir en tout cas un plan de refinancement bouclé pour la fin de cette année 2024 et donc avoir un accord avec ses créanciers, les banques, des fonds d'investissement d'ici l'été. Et Atos espérait, ou en tout cas c'est ce qu'il avait prévu, récupérer, en tout cas vendre des actifs pour récupérer du cash et évidemment se désendetter, réduire une partie de cette dette. On avait d'abord commencé par une vente des activités historiques d'Atos à Daniel Kretinsky qui a duré 6 mois. Finalement, ça a échoué. C'était une activité, on va dire, en tout cas à restructurer. Puis ensuite, Atos s'est dit qu'il allait vendre sa pépite de cybersécurité. Les négociations avec Airbus viennent de tomber à l'eau. Là, il espérait en récupérer 1,5 milliard d'euros. Résultat, il n'y a plus de ventes d'actifs qui sont sur la table. Et donc, Atos va bel et bien devoir rentrer dans une phase de négociation qui va être très difficile avec ses banques. Les banques espéraient évidemment des ventes d'actifs pour avoir, on va dire, un effort financier de la part de la société. Maintenant, les banques vont devoir annuler une grosse partie de la dette. Combien? C'est toute la question. Il faut d'abord faire la lumière sur l'état des finances réelles d'Atos, car là encore, il y a beaucoup de points d'interrogation. C'est un chantier extrêmement compliqué qui s'annonce pour les mois à venir. Une situation qui ressemble énormément à ce qui s'est passé sur Casino l'année dernière.
Une situation qui a encore fait plonger le titre, vous l'avez vu, puisque le titre a encore perdu 19% ce soir à la Bourse de Paris. Le titre Atos ne vaut plus qu'1,73€. Il a perdu 70% de sa valeur. Et puis, vous avez peut-être vu cette déclaration Mathieu de Thalès, il y a quelques instants, qui dit « Nous ne sommes pas intéressés par les activités Big Data et cybersécurité ». Thalès qui avait été dans la ronde à un moment donné aussi.
Oui, exactement. Et on attend, dans les minutes qui viennent, une communication du ministère de l'Économie qui doit se prononcer sur... en tout cas, ce qu'il compte faire ou ce qu'il veut faire sur ses activités. Je rappelle qu'il surveille de près ses activités de cybersécurité considérées comme souveraines par la France, notamment par rapport au ministère des Armées.
On verra ce que dira Bercy dans quelques minutes sur ce dossier. Atos, en tout cas, encore une journée cauchemardesque pour le titre à la Bourse de Paris. Merci beaucoup, Mathieu.
Merci,
Mathieu Pechberti avec nous sur BFM Business. Dans l'actualité ce soir, l'appel solennaire de Bruno Le Maire, justement, qui était à Berlin aujourd'hui. Il a plaidé une nouvelle fois pour que l'Europe crée enfin une véritable union des marchés de capitaux. Faire plus travailler ensemble les systèmes financiers pour drainer plus d'épargne vers les entreprises, pour créer des champions européens. Au-delà de ça, il a dit qu'il faut un sursaut européen d'une manière générale. Écoutez Bruno Le Maire.
Le premier mot d'ordre, c'est le risque. Depuis des années, depuis des décennies, l'Europe met en avant le principe de précaution. Eh bien moi, je mets en avant le principe de risque. Nous devons mettre en avant le risque. L'Europe de l'après-guerre s'est faite autour du charbon et de l'acier. L'Europe de demain doit se faire autour de l'intelligence artificielle. Nous avons créé l'Europe en créant la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Je vous fais aujourd'hui à Berlin cette proposition. Créons ensemble, Français et Allemands, la Communauté européenne de l'intelligence artificielle. Voilà. Acceptons d'innover avant de réguler. Nous avons la passion de la régulation. Mais je préfère innover sur mes propres innovations que réguler les innovations des autres.
Voilà donc Bruno Le Maire aujourd'hui du côté de Berlin qui a appelé à la création une fois de plus de cette union des marchés des capitaux en Europe. Et puis figurez-vous qu'à Paris aussi on a brainstormé sur le sujet de l'attractivité de la place de Paris. C'était lors de la conférence annuelle d'Euronext. L'opérateur boursier. Bonsoir Étienne Braque, vous avez assisté à cet événement, c'était au pavillon Gabriel. Emmanuel Macron a donné quelques pistes d'ailleurs ce matin. Il veut solliciter la Caisse des dépôts, le privé et même l'Europe, Étienne.
Oui, et ça sera même le plan des prochains mois au niveau national, continuer à attirer les investisseurs. Depuis le Brexit, Paris est devenue la première place européenne et pour cela, Emmanuel Macron veut encore aller plus loin avec plusieurs mesures qui ont été annoncées, à commencer notamment par une simplification des introductions en bourse. Aujourd'hui, vous avez pas mal de dirigeants qui ont peur d'aller en bourse. Aujourd'hui, il y aura des droits de vote multiples. Ainsi, ils vont continuer à conserver le contrôle de leur entreprise. Des mesures pour les PME, pour les ETI en bourse. Vous savez, il y a des gros problème de liquidité en ce moment sur les petites et moyennes valeurs. Par rapport à cela, vous avez la Caisse des dépôts qui va injecter 500 millions d'euros là, dans les prochains jours afin de financer ces PME, ces ETI, avec bien sûr l'objectif de créer aussi une union des marchés au niveau européen. Ça va être plus compliqué avec également un livret d'épargne qui devrait être commun par rapport aux différents pays européens. Et puis enfin, des mesures également pour simplifier les normes. Parce qu'Emmanuel Macron l'a dit dans son message ce matin, il y a beaucoup trop de normes. Il faut simplifier les introductions en bourse, simplifier le financement de l'économie réelle, avec bien sûr toujours l'objectif de mettre en bourse les start-up et éviter qu'elles aillent à Wall Street.
Merci beaucoup Étienne. Étienne Braque donc au pavillon Gabriel pour BFM Business. Puis justement, puisqu'on parle de normes, figurez-vous que le Sénat examine en ce moment même une proposition de loi qui vise à instaurer ce qu'on appelle un test PME. L'idée en gros, c'est de dire qu'avant de voter justement une nouvelle norme imposée aux entreprises, on la teste tout simplement au préalable. C'est pas le cas aujourd'hui. Vous allez voir que beaucoup de petites TPE continuent à en faire les frais. Reportage de Zidane Azouzi à Paris pour BFM Business.
Dans le 13e arrondissement, Cyclemove, TPE de 5 salariés, répare les vélos pour les particuliers et les entreprises. Emmanuel Vitré, son fondateur, est confronté à des difficultés administratives. Il a acheté une machine pour soulever les vélos électriques censés aider ses salariés, mais impossible d'obtenir l'aide promise.
L'assurance maladie rembourse jusqu'à 50% de l'achat d'un pied d'atelier électrique. Sauf que quand on dépose le dossier, moi par exemple j'ai déposé un dossier, on m'a posé 10 000 questions et finalement j'ai laissé tomber et je me suis assis sur 50% du prix d'achat. Et ça c'est vraiment typique de la lourdeur administrative.
Alors pour faire face aux nombreuses procédures, la CPME a des propositions. Bernard Cohen-Haddad est le président de la Confédération à Paris.
Déjà c'est ce qu'on appelle le coffre-fort électronique, c'est la capacité de mettre l'ensemble des documents, les cabis, les pièces d'identité, les justificatifs dans un bouclier électronique qui permet effectivement de les sortir à chaque fois que nous en avons besoin. Il faut tout simplement rendre beaucoup plus simple, plus fluide les relations entre les entreprises, les administrations.
Aujourd'hui, des tâches comme l'édition des factures, devis ou fiches de paye peuvent prendre jusqu'à 8 heures par semaine pour une TPE. Selon l'IFRAP, les charges administratives représentent un coût de 75 à 87 milliards d'euros pour les entreprises.
Reportage de Zidane Zouzi. On reparlera bien sûr de ce test PME avec nos experts jusqu'à 20h sur BFM Business. Quelques mots avant d'aller sur les marchés. D'abord en France, les syndicats agricoles, donc reçus ce matin par Gabriel Attal à Matignon, ils lui ont fixé une liste de 5 grosses priorités pour sortir de la crise. Ils attendent au plus vite un calendrier et des arbitrages, je cite, sur l'ensemble de ces sujets. Côté entreprise, c'est la grosse annonce de la journée. Unilever lance un plan d'économie qui va le conduire à supprimer 7500 postes. Le groupe va se séparer notamment de son pôle glace. C'est Magnum, c'est Ben & Jerry, c'est Carte d'Or. Il est apparemment parti pour le scinder du reste du groupe et le placer séparément en bourse. Et puis les salariés français de The Body Shop attendaient d'en savoir un peu plus sur leur sort. C'est une information BFM Business, la filiale française rachetée par le fonds d'investissement Aurelius, fonds allemand. La filiale française a demandé son placement en redressement judiciaire. Vous retrouvez plus d'infos si le sujet vous intéresse sur notre site internet bfmbusiness.fr. 18h08, on va sur les marchés.
Votre rendez-vous avec AG2R La Mondiale. Épargne, retraite, santé, prévoyance. Avec AG2R La Mondiale, prendre la main sur demain.
Les marchés, Aude Kersulec à Euronext avec nous pour BFM Business. Bonsoir Aude, clôture à la hausse ce soir sur le CAC 40.
Bonsoir. Et on finit même avec un record de clôture à 8201 points ce soir, une hausse de 0,6%. Ça s'est quand même pas si mal passé, hein, cette journée d'attentisme avant réunion de réserve fédérale, enfin, et décision surtout demain soir. Alors qu'en plus à Wall Street, on avait commencé assez dispersé, maintenant on est dans le vert. On a réussi à trouver une tendance. Alors c'est pas la tech, hein, c'est pas le luxe non plus qui monte, c'est grâce au pétrole, le Brent qui monte depuis ce week-end avec des tensions géopolitiques, hein, notamment une raffinerie de Rosneft qui a été attaqué par un drone ukrainien en Russie. Ça pose question sur la production mondiale. Donc le prix monte, $87,05 pour le Brent. Total Energy en profite. C'est la plus forte hausse du CAC 40. Patrick Pouyanné n'aime pas qu'on dise que c'est une pétrolière. Il n'empêche que le titre de Total Energy reste bien corrélé au cours de l'or noir. Et puis, on a aussi Airbus qui est à son plus haut historique ce soir, €166. Airbus qui monte, Atos qui baisse. Forcément, les deux étaient liés aujourd'hui. Atos qui dégringole, moins 19%. Aujourd'hui encore, une énième journée difficile pour ce titre. Mais donc nous, on peut se réjouir d'un nouveau record de clôture. Il faut dire qu'on continue d'être sur les plus hauts ici à la Bourse de Paris. 8201 points, Guillaume.
Merci beaucoup, Aude Kersulec. On regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street à la mi-séance. Le Dow Jones qui, en ce moment, est en hausse plus 0,7%, 39055 points. Et puis l'indice Nasdaq de son côté qui gagne 0,3%, 16150. 18h10, Jean-Pierre Champion, le directeur général de Crise Group et l'invité d'Edwige Chevrillon, c'est la grande interview dans un instant. Très bonne soirée.
BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview.
Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Chaussez vos lunettes, puisqu'on va parler lunettes. Je reçois le leader français des lunettes, le patron de Chris Group. Bonsoir Jean-Pierre Champion.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Évidemment, vous avez publié vos résultats aujourd'hui. On va voir que là, votre part de marché ne cesse de croître, mais que le marché de l'optique aussi ne cesse de croître, j'ai envie de dire, et pour cause, on vieillit de plus en plus. Et donc, la population française vieillit. Vous vendez quoi, 2 millions et demi, c'est ça, 2 millions
de verres? C'est ça.
Et combien de verres?
Le double.
Le double, oui, ben forcément. Non, ça aurait pu être un peu plus, hein, on ne sait jamais, pour changer ses lunettes. Le marché de l'optique français, est-ce qu'effectivement, on est en plein boom?
Oui, 5,5%. Nous réalisons 3 points de mieux. Ce marché est en croissance pour plusieurs raisons. Mmh. Vous l'avez dit, le vieillissement démographique. 25% des jeunes portent des lunettes, 50% des quadragénaires, 90% des octogénaires. Donc plus la population vieillit, et plus on porte des lunettes.
Les jeunes aussi, hein, vous dites, il y a 25% qui portent des lunettes.
Et la deuxième raison, c'est la myopie. Vous n'êtes pas sans savoir que elle augmente avec la consommation d'écran. Donc les jeunes sont de plus en plus myopes. Chaque année, il y a 1% de myopes supplémentaires dans les moins de 18 ans. Et on s'achemine petit à petit vers le taux de prévalence qui existe en Asie. Donc on est à 30% de myope et on va vers le 50% de myope.
Ah oui, c'est incroyable.
Et il y a une troisième raison.
Oui.
Il y a un petit peu d'inflation sur ce marché, mais je dirais que c'est la cause mineure dans l'ensemble des trois que je vous ai cités.
Ah oui, je n'avais pas réalisé que chez les jeunes, c'était à ce point-là.
Consommation d'écran.
Oui. L'impact est direct entre la consommation d'écran,
oui.
c'est démontré, c'est QFD. Quoi.
Absolument. Et depuis le Covid, les adultes aussi consultent davantage leur ophtalmo, oui, parce qu'ils sont davantage devant les écrans et donc consomment aussi plus de lunettes parce que leur acuité visuelle s'est modifiée à force de rester trop longtemps devant les écrans en télétravail.
Oui, ah, le télétravail, comme quoi tout a un impact sur votre marché finalement. Oui. Vous êtes un baromètre de la société
en quelque
française
sorte.
En tous les cas. Le télétravail a eu un impact sur les marchés de la lunette.
Nous le pensons. Encore une fois, le nombre de consultes, on va voir plus souvent son ophtalmo parce qu'on a besoin de corriger plus souvent sa vue dès lors qu'on est davantage devant son écran.
Oui, à mon avis, il y a pas mal de gens qui nous écoutent ou qui nous regardent qui se disent ça. Mais en même temps, les consultations d'ophtalmologie sont de plus en plus difficiles. Le délai est de plus en plus long. Il faut quoi, 2 mois, c'est ça, pour trouver un...
3 mois en moyenne, mais des cabinets.
3 mois en moyenne, oui.
Des cabinets d'ophtalmologie se sont formés. Qui sont capables de traiter des volumes très importants. Et donc je pense que l'offre de prescription est en train de s'étendre. Et nous sommes sortis de la période où il y avait un goulot d'étranglement qui empêchait les gens de porter des lunettes et les obligeait à attendre 4 à 6 mois avant d'avoir un rendez-vous.
Donc pour vous, c'est derrière vous, quoi.
Je pense que c'est derrière nous et la télémédecine va aller dans ce sens, puisque on pourra, avec des protocoles de téléconsultation, consulter à distance par définition.
Ouais. Alors vous avez une structure particulière chez Chris Group parce qu'en fait vous êtes une coopérative. Vous en êtes le directeur général.
Oui.
Une coopérative qui est constituée évidemment de membres. Alors, au total, je crois que vous avez un peu plus de 1500, 1600.
Un millier d'adhérents. Et 1550 magasins.
Oui. Et donc c'est un modèle particulier par rapport aux autres qui vous suivent, qui sont derrière. Quel est le numéro 2 ? Si vous êtes le numéro 1, le numéro 2 c'est qui dans
Je pense qu'il y a deux numéros 2. Aujourd'hui, Optique 2000 et Optical Center.
Ouais. Le coût des lunettes, le reste à charge des lunettes, est-ce qu'il ne reste pas encore trop élevé ? Parce que le prix d'une lunette, ça coûte très cher, tout le monde vous le dit.
C'est le reste à charge le plus faible dans le monde. Une paire de lunettes vaut en moyenne 450 euros.
Ouais.
Un tiers constitue le reste à charge. Les deux tiers, c'est le remboursement.
Ça fait beaucoup quand même, oui.
C'est 150 euros.
Ouais.
Il n'y a pas un pays où on est mieux remboursé qu'en France. Le prix des lunettes, c'est le même partout. C'est la dépense qui est un peu supérieure en France parce que le niveau de remboursement est supérieur. Et le niveau de remboursement est supérieur tout simplement parce que les Français cotisent davantage auprès de leur mutuelle.
Oui, mais maintenant, plus le remboursement est élevé, plus les prix des lunettes augmentent.
Les prix des lunettes, la même monture, les mêmes verres, sont au même prix en Allemagne, en Espagne, en France. C'est la dépense qui est supérieure.
Mais que vous appelez la dépense ?
Les Français achètent plus de verres de technologie récente que, par exemple, les Espagnols. Ou plus de marques que les Allemands, qui ont recours davantage aux marques propres. Mmh. Et donc, la dépense est supérieure, mais le prix des produits eux-mêmes, toutes choses égales par ailleurs, est le même.
Oui. On parlera tout à l'heure de reproduire en France, relocaliser en France, parce que vous avez ouvert et agrandi votre usine près de Paris dans les Yvelines à Bazainville. Du coup, vous avez rapatrié non pas la production des montures, mais la production des verres. On en dira un mot tout à l'heure. Juste encore avant, donc, le marché de l'optique est en plein boom. C'est un marché quand même très très lucratif. Lorsqu'on voit le nombre de boutiques d'optique qui s'ouvrent dans les quartiers de la capitale, et je pense que c'est la même chose ailleurs, c'est incroyable. On se dit que c'est très très rentable.
Qu'entendez-vous par lucratif ?
Qui doit gagner beaucoup d'argent.
Combien ?
Je ne sais pas, ça dépend de la taille.
Un magasin, c'est 500 000 euros d'investissement, le résultat étant entre 5 et 6%. Donc ça me paraît, moi, être un investissement assez classique, un rendement assez classique.
Comment vous expliquez à ce moment-là qu'il y a autant de boutiques de lunettes qui s'ouvrent ?
Le nombre de boutiques est une fonction de la taille du marché. Notre marché faisait 5 milliards il y a quelques années.
Oui.
Il en fait 7,5 aujourd'hui. Il en fera 8,5 en 2028. Et donc, il faut bien que le nombre de boutiques se proportionne à la taille de ce marché.
Oui. Ouais. Ouais, c'est assez fascinant. Alors il y a en plus parce que maintenant on parle des deux, les yeux, et puis il y a aussi l'audition. Alors là, c'est aussi un marché en plein boom. Là, c'est pas les jeunes, évidemment, c'est pas la question d'écran. Enfin, peut-être, vous me direz.
Non.
Ça peut être aussi la question des écouteurs. Mais en tous les cas, c'est plus la population vieillissante. C'est combien aujourd'hui le marché de l'audition ?
Le marché de l'audition, c'est 1,8 milliard d'euros. C'est à peu près 10% de la population française qui est malentendante et la moitié d'entre
eux. Combien, pardon, je sais pas.
10% de là.
Oui.
Et 5% qui est équipé. Donc contrairement au marché optique, au marché de l'optique, il y a une grande partie des malentendants qui n'avaient pas jusqu'à présent les moyens de s'équiper. Et le boom va venir du fait que avec le 100% santé, le reste à charge étant zéro sur les aides auditives, il n'y aura plus d'obstacles économiques au fait de s'équiper. Comment une optique où il n'y a pas d'obstacles économiques, il y a un 100% santé, et un 100% également un reste à charge zéro, 100% santé. Et donc, on espère que ce taux d'équipement va augmenter, ce qui va probablement amener ce marché d'1,8 milliard à 2,5 milliards en 2028.
Oui, donc ça, on voit bien l'évolution des mœurs, j'ai envie de dire. Chris, là-dedans, Chris, vous tirez forcément votre épingle du jeu, vous restez numéro 1 de plus en plus, votre part de marché. Vous avez augmenté, votre chiffre d'affaires s'est augmenté plus que le chiffre d'affaires de l'ensemble de l'optique, puisque vous le disiez tout à l'heure, le marché de l'optique, c'est plus 5% et un peu plus. Et vous, là, c'était plus à 8,4% sur 2023.
Tout à fait.
Donc, c'est... comment vous l'expliquez? C'est votre modèle un peu particulier de distributeur-producteur?
Indiscutablement. Mmh. Alors d'abord, dans cette croissance de 8,5, il y a 6 d'organique et 2,5 de croissance par ouverture de magasins.
Ouais.
Les ouvertures de magasins, on en a ouvert 70.
Et où?
Dans toute la France.
Ouais.
En 2023. Et on a ouvert à peu près 55 espaces auditions, en plus de ces 70. Donc une part de la croissance vient du nombre de magasins nouveaux. L'autre partie de la croissance vient de la croissance organique. Donc la croissance organique, c'est tout simplement l'aptitude qu'on a à conquérir de nouveaux clients. On en a conquis 1 million cette année, 1 million de nouveaux clients.
Au total, vous en avez 10 millions de clients.
10 millions au total.
Ouais.
On en a conquis 1 million sur cette dernière année. C'est aussi le résultat d'une plus grande fidélité de nos clients. Vous savez qu'on mesure l'attractivité d'une enseigne à ce qu'on appelle le Net Promoter Score, où on compare les ambassadeurs et les détracteurs. Et notre Net Promoter Score est très élevé, puisqu'il est au-dessus de 85%, ce qui nous vaut une plus grande fidélité de nos clients. Quand vous combinez plus de fidélité et plus de recrutement de nouveaux clients, bah vous obtenez de la croissance organique.
Je disais, vous êtes distributeur-producteur. Alors, producteur, pas de tout, parce que vous produisez vos verres,
oui,
avec cette grande usine et investissement majeur que vous avez fait et que vous allez continuer à faire dans cette usine de Bazinville. Mais en même temps, vous ne produisez pas de montures. Comment vous dites que c'était l'Italie, la Chine? Pourquoi on ne le fait pas en France? Alors, il y en a un peu dans le Jura, évidemment, la vallée de l'optique, mais...
C'est une question d'intensité capitalistique. 50% du coût d'un verre, ce sont les machines et les amortissements de machines. 80% du coût d'une monture, c'est de la main-d'œuvre.
D'accord.
On ne peut pas se comparer à l'Asie en termes de coût de la main-d'œuvre. Alors qu'on peut acheter les mêmes machines, même des machines plus modernes, et gagner en productivité au-delà des pays asiatiques. Et donc, on peut être concurrentiel pour les verres, activité hautement capitalistique.
Mm-hmm.
Il est impossible d'être compétitif sur les montures où la main-d'œuvre a une part trop importante.
D'accord. Alors, cette usine que vous avez faite dans les Yvelines, c'est une manière pour vous, elle existait déjà, là vous avez réinvesti et vous avez pu relocaliser en France la production de certains verres, pas évidemment tous les verres.
Alors, quand on n'a pas la compétitivité coût, il faut se contenter de la compétitivité hors coût.
Oui.
La compétitivité hors coût, elle est sur les produits à forte valeur ajoutée. Donc on rapatrie les produits à plus forte valeur ajoutée. On a rapatrié 400 000 verres. On a investi 23 millions d'euros dans notre usine pour passer d'1 400 000 verres produits tous les ans à 1 800 000. Ce qui fait à peu près 30% des verres que nous écoulons dans nos magasins.
Donc, donc vous avez fait ce choix, enfin en tous les cas votre groupement a fait ce choix de relocaliser en France. Est-ce que les impôts de production n'ont pas été un frein justement à cette relocalisation? Est-ce que ça a été une question et pourquoi ce choix?
Pourquoi ce choix de s'implanter en France?
Oui.
Une coopérative, elle est inscrite dans un territoire.
Mm-hmm.
Les magasins, il y en a 1550, ils couvrent toute la France. On n'imagine pas une coopérative qui ouvre une usine, une coopérative française qui ouvre une usine en Chine. Ça n'a pas de sens. La conséquence, c'est qu'on ne peut pas fabriquer la totalité des verres que l'on vend.
Mm-hmm.
Il faut choisir ceux pour lesquels nos magasins seront les plus à même de les proposer à nos clients avec la meilleure proposition de valeur. L'avantage pour un distributeur-producteur, c'est que l'actionnaire n'attend pas de dividendes de la part de cette activité industrielle. Et donc, l'équivalent de ces dividendes, on les redonne en compétitivité prix à nos associés et par conséquent à nos consommateurs. Et c'est ce qui nous vaut de gagner des parts de marché et de ne pas avoir augmenté ces deux dernières années les prix, alors que l'inflation faisait que le prix des verres fabriqués par les autres concurrents augmentés, le prix des montures aussi. Nous n'avons pas, nous, bougé les prix, parce que comme nous fabriquons, nous sommes capables...
Oui, enfin, votre matière première, elle a augmenté.
Elle a augmenté, l'électricité a augmenté. Oui, mais les gains de productivité... L'intéressant dans une usine, c'est de faire 5% de productivité tout le temps. C'est possible.
Mmh.
Il suffit de moderniser les équipements, former les équipes, optimiser les process. Ces 5% de productivité absorbent l'augmentation du coût des matières. Et comme nous n'avons pas d'actionnaire qui nous dit « renvoyez-nous le dividende », nous renvoyons l'équivalent de ce dividende sous forme de prix compétitif.
D'accord. Les impôts de production, ça vous pénalise ou non ?
Je ne sais pas plus que ça. Je pense pas. Le problème du produire en France, ce n'est pas une question de coût, contrairement à ce qu'on pense.
Oui, voilà.
C'est une question de recrutement. Moi, je n'arrive pas à recruter la totalité. J'ai des postes ouverts que je n'arrive pas à combler en CDI, tout simplement parce que je pense, sur le marché français, sans se lancer dans une trop longue digression, n'a pas le bon équilibre entre le revenu disponible d'un actif et le revenu disponible d'un inactif.
Oui, j'ai l'impression d'entendre Bruno Le Maire.
Je suis désolé d'être la voix de Bruno Le Maire, mais c'est une réalité. Moi, je ne me plains pas du niveau d'impôt, je ne me plains pas
de l'inflation réglementaire. Le niveau de compétence, il est là ?
Pardon ?
Le niveau de compétence.
Le niveau de compétence est tout à fait là. Et lorsqu'il n'est pas là, nous formons.
Oui.
Figurez-vous qu'il n'y a que 2000 opticiens qui sont diplômés tous les ans, mais on en a besoin davantage. Et alors, sur l'audioprothèse, c'est encore pire. Bon, mais les opticiens, quand on ne peut pas avoir des diplômés, on forme des non-diplômés qu'on va chercher dans d'autres filières. Et on peut tout à fait compenser. Donc la formation est là, les compétences sont là. Encore faut-il que les gens aient envie de travailler.
Oui. Il y a une autre, peut-être dernière question, Jean-Pierre Champion, c'est la question de l'intelligence artificielle. Parce qu'à un moment, on a beaucoup parlé, j'avais reçu ici Marc Simoncini, sur la vente de lunettes en ligne, en disant, après tout, ça coûtera beaucoup moins cher parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir un pas de porte, c'est beaucoup plus simple, etc. Après, on sait que ça va être les difficultés qu'il a rencontrées, que beaucoup de Françaises disaient, attendez, moi je ne suis pas sûre, ça sera difficile pour moi de mesurer et tout. L'intelligence artificielle, elle pourra le faire, ça pourra changer quand même beaucoup le fonctionnement de votre métier.
Bon, l'intelligence artificielle changera probablement la quasi-totalité des métiers. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui les conséquences
que ça aura. Vous ne l'utilisez pas encore, vous ?
On l'utilise à des fins créatives,
oui,
exclusivement, mais à des fins industrielles, pas encore. Internet, c'est moins de 5% du marché. Pourquoi ? Pour une raison que vous avez évoquée, mais pas seulement. La première, c'est que le tiers payant, il est en magasin, il n'est pas online. Et le tiers payant, c'est important. Vous-même avez mis l'accent tout à l'heure sur le prix. Le conseil, il n'est pas online, il est en magasin. Le choix, quand vous essayez une paire de lunettes, c'est difficile de l'essayer virtuellement. Vous voulez l'essayer réellement. Et donc, pour toutes ces raisons, Internet, aujourd'hui, ne répond pas. Il y en a une dernière qui est que lorsque le verre est complexe, la prise de mesure n'est pas possible à distance. Elle le sera un jour, peut-être dans 5 ans. À mon sens, pas nécessairement par recours à l'intelligence artificielle, mais par des algorithmes classiques, on pourra le faire. Et là, peut-être qu'Internet prendra une part plus importante, il faudra alors nous réinventer.
Oui, ouais, c'est bon. Réinventer, ou en tous les cas, changer, quoi. Toute dernière question, je rebondis comme il reste 30 secondes. Vous avez dit tout à l'heure que les Français, en fait, la dépense des Français était supérieure à celle des Allemands ou des Espagnols, etc.
Oui.
Parce qu'en fait, les Français, on adore les marques, c'est pour ça, parce que c'est un business lucratif incroyable, hein, le business des marques, des lunettes de marque.
On adore les marques, mais encore faut-il pouvoir se les payer.
Ah,
et
oui,
pour se les payer, encore faut-il avoir un niveau de remboursement correct. Et pour l'avoir, encore faut-il cotiser à des mutuelles qui redonne l'équivalent de cette cotisation. Ce qui n'est pas le cas des deux pays que vous avez cités.
Merci beaucoup Jean-Pierre Champion, directeur général de Chris Group. Donc on a bien compris, 2024-25 et à suivre, plutôt un avenir florissant pour l'optique et l'audition et donc pour Chris Group. Merci beaucoup d'avoir été avec
nous. Good evening business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
Allez, 18h35, les experts, première partie jusqu'à 19h. Audrey Tcherkov nous a rejoint. Bonsoir Audrey.
Bonsoir.
Et la
tous.
Rédaction, évidemment, Mathieu Pechberti est là. Bonsoir.
Bonsoir
Mathieu. Thomas Asportas.
Bonsoir
Edwige Chevrier. Rebonsoir Edwige.
Bonsoir.
On a beaucoup de dossiers Atos avec l'État qui monte au créneau. Alors, dans un instant, juste 30 secondes, parce que j'ai été épaté par ce qu'a dit Jean-Pierre Champion, le patron de Chris, sur la façon dont le télétravail a modifié le rapport des Français aux lunettes, à la consommation
La consommation des écrans.
Des écrans,
on est de plus en plus myope, et donc effectivement, ça fait le télétravail, ça fait booster le marché de l'optique, tout comme la consommation des écrans. Et c'est pour ça qu'il y a 25% de jeunes qui portent des lunettes et ils seront à l'aune de 2025-26, je ne sais plus exactement, 50%.
C'est dingue.
C'est quand même complètement dingue, sachant qu'après ils vont rentrer dans le télétravail, donc ils auront encore plus besoin de lunettes. Mais oui, comme quoi c'est vraiment un lien très fort.
30% de myope aujourd'hui,
oui,
50% à échéance de quelques années. Voilà.
Oui, c'est vraiment la statistique qui m'a frappé dans ce qu'il a dit.
Oui,
marché. C'est sûr qu'on vieillit tout ça, donc autour de cette table, beaucoup d'entre nous, on a des lunettes ou partiellement.
Exactement.
Ah, pas encore.
On y viendra tôt ou tard.
On y viendra tôt ou tard.
C'est sûr, on n'y comprend pas.
Marché porteur, voilà, c'était la petite parenthèse. Bon, pas besoin de lunettes pour comprendre que ça va de plus en plus mal chez Atos.
Exactement. Alors, si on résume, Mathieu Pechberti, donc d'un côté, et vous nous l'annonciez hier soir, ça a été confirmé ce matin, donc Airbus n'est plus candidat au rachat du Big Data et de la partie cybersécurité d'Atos. De l'autre côté, on sait que Daniel Kretinsky ne négocie plus la partie infogérance. Donc, en gros, il n'y a plus d'acheteur pour quoi que ce soit au sein d'Atos. Il y a un communiqué qui vient d'être publié de la part de Bercy. Je vous laisse nous l'annoncer en exclusivité. Que dit-il ?
L'économie qui, depuis un an maintenant, dit qu'il surveille ce dossier de près puisqu'il y a des activités dites ou en tout cas jugées sensibles par le gouvernement qui sont des activités de cybersécurité où il y a des contrats notamment avec le ministère des Armées et les supercalculateurs d'Atos où là il y a des contrats notamment aussi avec le ministère des Armées d'ailleurs mais avec des institutions publiques et également l'OTAN. Donc Bercy a réaffirmé ce soir qu'il surveillait le dossier et il y a une petite phrase qui va effectivement faire causer qui est de dire que Bercy va étudier dans les prochaines semaines une solution nationale autour d'Atos.
Alors est-ce que là, ça veut dire une nationalisation temporaire ?
On nous dit d'ores et déjà à Bercy qu'il ne s'agit pas d'une nationalisation. De toute façon, Bercy n'a jamais voulu de nationalisation. Alors, pas d'Atos, évidemment, on parle que des activités stricto sensu de cybersécurité et des supercalculateurs qui ne sont pas une activité très importante en termes de taille. Il n'y aura pas de nationalisation, mais on peut évidemment s'attendre. Il y a d'ailleurs déjà des échanges, en réalité, informels, évidemment, entre le gouvernement et des acteurs du dossier et ou public ou pseudo-public, je m'explique.
Ou l'actionnaire est en
particulier. Il y a la Banque publique d'investissement, qui est BPI France, pardon, qui est toujours mise en avant dès qu'il y a un dossier de ce genre. Donc, ils regarderont, parce que si le ministre le demande, ils le feront. Mais on pense surtout, et là, en tout cas, moi, mes informations sont claires sur le fait qu'il y a des échanges là-dessus maintenant depuis plusieurs mois, des contacts, on va dire. Il n'y a pas de projet, mais il y a des contacts entre le gouvernement et des groupes quasi-publics comme Dassault, bien qu'il appartienne à la famille Dassault. L'État est actionnaire du groupe Thalès. La famille Dassault et le groupe Dassault ont toujours été extrêmement proches de l'État, bien que groupe privé et familial, puisqu'ils dépendent très largement de la commande publique.
Pardon, vous avez vu ce qu'a dit Thalès tout à l'heure, qui s'est empressé de répéter qu'il n'était pas intéressé par BDS.
Oui, mais Thalès, en réalité, depuis maintenant près de 2 ans, a toujours dit qu'il n'était pas intéressé par cette division qui s'appelle Big Data and Security, en fait, parce qu'ils sont intéressés que par la cybersécurité. Ouais. Donc il y a toujours une nuance à avoir, et on entend quand même clairement dans l'entourage d'Atos dire que si à un moment donné cette entité qu'on appelle BDS, Big Data and Securities, donc la cybersécurité et les supercalculateurs, peuvent très bien être partagés au sein du groupe Dassault, entre Thalès, Dassault Aviation peut-être pour les supercalculateurs. Bref, Dassault, encore une fois, est un groupe privé, mais très proche de l'État, parce que de toute façon, il n'y a personne d'autre.
Oui, bien sûr, mais alors quid de cette rumeur qui dit que Airbus est peut-être en train finalement de faire une feinte pour s'assurer une position de force dans ces négociations ?
Écoutez,
Fois qu'il feinterait, comme on dit.
Oui, Airbus a quand même fait deux négociations avec Atos. Les deux négociations en un an, ont échoué. Airbus dit très clairement que là, c'est terminé à jamais, que de toute façon, Atos, ils ont un peu ras la casquette d'Airbus et des négociations qui n'ont jamais véritablement avancé. Oui, il y a quand même une petite musique qui traîne depuis des mois, à la fois sur Daniel Kretinsky, à la fois sur Airbus et d'autres repreneurs. Je rappelle qu'il y a le premier actionnaire d'Atos, David Layani, bien qu'il soit beaucoup plus petit, est quand même présent dans le dossier. Beaucoup de gens disent que ces acteurs-là jouent quelque part la tactique du plan de sauvegarde pour finalement récupérer des actifs à bon prix à la barre du tribunal.
Edwige,
juste sur Thalès qui va un peu dans votre sens, mais en même temps les réticences, et puis après quand votre actionnaire est en partie l'État ou Dassault, ça a un peu joué. Je me souviens, Patrick Ken, à qui je posais la question, disait mais la cybersécurité c'est une question d'hommes. Et que la cybersécurité chez Atos, à la limite, il considérait que lui, il avait des systèmes et puis des hommes beaucoup plus performants. Et donc, il trouvait que la cybersécurité d'Atos n'avait lui apportait absolument rien. Donc, il avait été quand même assez clair là-dessus. Après, si on lui force la main, c'est une question de bras de fer.
Non, mais parce que pour compléter ce que Edwige vient de dire, il y a aussi beaucoup de très hauts profils qui ont quitté le navire.
Écoutez, alors moi j'ai pas de chiffres, ok. Donc il y a des dirigeants à la fois d'Atos et effectivement dans cette activité dans la filiale cybersécurité qui sont partis, hein, notamment l'un des dirigeants de cette activité, dont j'ai oublié le nom, mais sur le nombre d'effectifs réels qui ont quitté ces entreprises, franchement, je n'en sais rien. C'était l'un des objets des réticences d'Airbus. Mais pour boucler avec ce que dit Edwige, c'est il est évident qu'en fait, il n'y a pas d'acheteur naturel pour cette activité. Enfin, vous voyez bien, on tourne en rond depuis un an et véritablement, personne ne veut acheter cette activité. Donc à un moment, l'enjeu, c'est...
Mais à un moment, il y avait des gens qui voulaient l'acheter. C'est pour ça que la gestion de ce dossier, il faudra un jour quand même qu'on le remette complètement à plat. Parce que c'est
l'enjeu, c'est savoir jusqu'à quel point le gouvernement va pouvoir effectivement quelque part pousser un acteur
privé.
Ils
ont pas réussi à pousser le bras,
pour y aller.
Le bras Airbus.
Et en fait, c'est toujours les mêmes noms qu'on entend depuis maintenant deux ans, Airbus et Dassault. Hein.
Est-ce qu'il faut faire une croix sur Daniel Kretinsky? Vous expliquiez il y a quelques semaines
que
Daniel
pas.
Kretinsky, oui, sortirait de la course pour le rachat de l'infogérance, mais qu'il ne fallait en aucun cas considérer qu'il ne referait pas surface. Voilà. Donc est-ce qu'il faut encore penser?
Ah non, mais il est clairement encore actif sur le dossier. Il attend d'avoir...
Il attend qu'on vienne le chercher. C'était
il attend effectivement un feu vert politique, puisqu'il a été extrêmement critiqué lorsqu'il avait négocié la reprise d'activité d'infogérance, et en partie celle de cybersécurité. Donc il attend que le gouvernement vienne le chercher, mais à un moment donné, les choses vont se cristalliser. Il faut d'abord qu'on passe par l'étape restructuration financière d'Atos.
Oui, absolument. Mais
c'est
enfin,
un chantier colossal.
Oui, mais il avait jeté l'éponge sur le rachat de Tech Foundation, justement pour revenir dans le jeu, dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, et être en position de force.
En tout cas, c'est effectivement le cas. Il est, comme on dit, un peu familière, en embuscade.
Oui,
toujours là, oui.
Mais après la chute du titre aujourd'hui, moins 19%. Demain, des résultats, on va voir...
Non, les résultats sont repoussés.
Ça veut dire que quand même, la négociation avec les banques ont forcément commencé, non?
Oui, mais les banques n'ont aucun chiffre sur l'état financier réel d'Atos. C'est des grosses interrogations sur quelle est la trésorerie d'Atos qui est générée pour savoir qu'est-ce qu'on peut mettre. Et il y a un énorme flou sur la comptabilité, sur les comptes d'Atos et la communication financière qui est absolument très mauvaise. Ça rappelle quand même beaucoup. Toutes les cases sont cochées et ça rappelle beaucoup ce qui s'est passé sur Casino.
Bien, donc je vous redonne les grandes lignes du communiqué de Bercy ce soir. L'État construira dans les prochaines semaines une solution nationale de protection des activités stratégiques d'Atos. Tous les intérêts de la France seront préservés, nous dit ce soir le ministère de l'Économie et des Finances.
Il n'y avait pas eu une proposition de loi LR qui reprenait ces mots-là?
Alors, il y avait des députés, effectivement, qui privilégiaient une nationalisation temporaire, effectivement, des activités de cybersécurité, toujours les mêmes, et puis d'une autre petite activité. Je pense que c'est quand même clairement pas... c'était d'ailleurs porté, en réalité, par un député socialiste, Philippe Bain.
Je pense que
c'est clairement pas, en fait, la solution... on voit bien que le gouvernement ne veut pas mettre le doigt dans le dossier Atos. Donc effectivement, je pense qu'on se dirigera davantage vers une solution avec un industriel qui soit proche de l'État français. Et encore une fois, il n'y en a pas 36 000.
Voilà pour ce dossier Atos. J'ose pas vous dire à demain, mais pas loin, Mathieu, parce qu'on a envie de t'en reparler, évidemment. On suit quasiment au jour le jour. Merci Mathieu. Mathieu Pechbertu qui est passé nous voir ce soir sur BFM Business. Écoutons Bruno Le Maire, tiens, qui lui était à Berlin, devant le patronat allemand, pour... relancer un vieux dossier, créer une véritable union des marchés de capitaux en Europe, parce qu'ils le disent, c'est ça. Il faut un supermarché du financement en Europe pour tenir tête à la Chine et aux Américains.
Et oui, c'est toujours cette idée que les systèmes financiers travaillent ensemble pour mieux driver l'épargne des particuliers, pour créer des géants dans bien des domaines, de la tech à la transition climatique. Et Bruno Le Maire a d'ailleurs pris l'exemple d'une pépite française pour illustrer ce problème. Écoutez.
Si nous n'avons pas de Capital Market Union... Une entreprise comme Mistral, créée en France, start-up de l'intelligence artificielle, qui aujourd'hui a probablement des logiciels et des algorithmes aussi efficaces que ceux de Google ou de Microsoft. Elle a pu lever 100 millions d'euros en France, puis 200, puis 300. Mais demain, ce sera 1 milliard qu'elle devra lever, ou 10 milliards. Soit il y a une union des marchés de capitaux, soit cette entreprise partira aux États-Unis.
Non mais l'exemple de Mistral, Thomas, est quand même intéressant, parce que c'est vrai que quand Mistral a eu besoin de lever plusieurs centaines de millions d'euros, eh bien ce sont des fonds américains qui ont répondu présent.
Effectivement, oui, je rappelle qu'au capital, aujourd'hui, on a Nvidia, on a Microsoft qui a lancé un partenariat. Il y a le nom de SoftBank qui a été annoncé vendredi dernier. Bon, on entend assez peu les investisseurs français là-dedans. Et oui, alors effectivement, le sujet, il traîne depuis 10 ans. On en parlait dès hier soir. On a besoin de pouvoir financer quelque part, Mistral, on a l'impression aux yeux de Bruno Le Maire que ça symbolise l'avenir de l'économie française. C'est-à-dire qu'on a enfin réussi à faire émerger une promesse. Non, mais c'est-à-dire qu'effectivement, c'est une promesse qu'on n'a pas eue dans la génération tech précédente. On n'a pas eu comme ça une lueur d'espoir sur les moteurs de recherche, sur l'e-commerce. Là, sur l'IA, ça y est, il y a une petite étincelle qui apparaît. Bon, bah pour en faire un feu d'artifice, il va falloir énormément d'argent. Là, Bruno Le Maire dit s'il ne trouve pas des milliards, ils partiront aux États-Unis. Je vous rappelle, ça n'a jamais été confirmé, mais que visiblement Sam Altman, le patron d'OpenAI, il cherche 7000 milliards de dollars pour développer non seulement son entreprise et son logiciel, mais pour fabriquer lui-même ses usines de puces. Donc vous voyez dans quelle bataille on s'engage, industrielle et financière. Donc effectivement, si on n'arrive pas à capter toute l'épargne privée, Bruno Le Maire a redonné ce chiffre aujourd'hui, c'est 35 000 milliards d'euros.
Oui.
L'épargne privée en Europe, qui dorme sur des comptes, ou pire encore, qui finance les entreprises américaines, sans que les Européens le sachent. Si on n'arrive pas à capter une partie de cet argent, bah c'est
un gâchis. Je rappelle ces chiffres que donnait Bruxelles encore. L'Europe a besoin, écoutez bien, de 620 milliards d'euros par an d'investissement dans la transition climatique, 125 milliards d'euros dans le numérique. Des sommes que ni les États ni les banques ne sont capables de mettre sur la table aujourd'hui.
Non, mais ce n'est pas forcément le rôle des États ni des banques. C'est effectivement à nous, les épargnants. D'abord, il faut qu'on accepte d'être fléchés. Pour l'instant, on se gave de la dette publique et la dette publique française. C'est ça qui séduit quand même largement et toujours les Français. Ça, c'est le premier point. Par rapport à créer un grand marché des capitaux, l'Union des marchés des capitaux, on a des systèmes bancaires qui ne sont pas du tout harmonisés, des fiscalités différentes. Mmh. Donc j'ai envie de dire qu'il faudrait peut-être d'abord commencer par ça. Enfin, ils auraient dû commencer il y a déjà plusieurs années, depuis le temps qu'on en parle, comme le soulignait Thomas. Et qu'aujourd'hui, c'est un chantier colossal parce que ce n'est pas harmonisé. Les banques allemandes ne sont pas, je dirais, comme les banques françaises. Donc c'est très compliqué à mettre en place.
Est-ce que c'est une simple divergence de vue franco-allemande ou c'est plus profond que ça? On n'arrive déjà pas à driver l'épargne des Français en France vers les entreprises. Donc le faire au niveau européen, on se dit que c'est encore plus improbable, Thomas, finalement.
Non, mais au vu des risques, c'est-à-dire effectivement de déclassement historique de l'Europe face à la Chine et aux États-Unis, peut-être que ça va provoquer un électrochoc. C'est ce qu'espère Bruno Le Maire. C'est-à-dire qu'il dit, quand on a eu la pandémie, on a eu un électrochoc, et là on a réussi à, je reprends ces mots, à casser la vaisselle. C'est-à-dire à faire comme on n'avait jamais fait auparavant.
Oui, un emprunt commun historique.
Déjà, à se bouger, à faire du chômage partiel, des fonds de solidarité, à lâcher, à faire du quoi qu'il en coûte à l'échelle de toute l'Europe, et effectivement à faire la dette en commun. Ce qu'on n'aurait jamais pu imaginer quelques mois, ne serait-ce que quelques mois auparavant.
Mais alors comment l'Europe...
Mais par contre, là, maintenant, quand on en vient à innover, là, on se bouge pas. Il dit, pour protéger, nous sommes toujours présents en Europe, pour innover, nous sommes trop absents. Donc il espère que, face à cette crainte de déclassement face aux États-Unis et à la Chine...
Mais qui est là, hein, de toute manière.
Eh ben oui, qui est là, que quelque part, ça va provoquer un sursaut des Européens. Et qu'on va peut-être enfin arriver à trouver cette martingale autour de l'Union des marchés.
Et puis c'est vrai qu'au-delà de faire l'apologie du protectionnisme, il a quand même proposé aujourd'hui des dispositifs de rééquilibrage commerciaux assez intéressants. Mais le problème, c'est que l'Allemagne, comme toujours, est super réticente parce qu'elle craint d'éventuelles rétorsions pour son industrie par rapport à la Chine, qui est son plus grand client.
Mais juste un point sur le financement, pardon. Je rebondis sur ce que disait Thomas tout à l'heure, là, à propos de Mistral. Oui. C'est que aujourd'hui, les valorisations ne sont absolument pas les mêmes entre la France, l'Europe et les États-Unis. Donc, ils vous disent tous quand vous les voyez, parce que je ne sais pas, moi, les miracles, tout ça, on les connaît par cœur. Ils vous disent, mais attendez, on va se faire believe, on va se faire valoriser aux États-Unis. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est trois fois, quatre fois
plus cher. Ah, mais la taille du marché n'est pas la même.
J'exagère, évidemment. Non, mais bien sûr. Mais du coup, vous êtes un Mistral, mais tout d'un coup, votre boîte, si elle vaut cinq fois plus cher, six fois plus cher aux États-Unis, qu'est-ce que vous faites? Vous allez aux États-Unis?
Bah, d'où l'importance du réveil européen pour mettre en effet des capitaux en commun et puis essayer de passer à l'échelle.
C'est Jean-Claude Juncker qui remet le débat sur la table en 2015, quelque chose comme ça, Thomas, finalement.
Une bonne dizaine d'années.
Et
puis, on est en quelle année, là?
Non, 2024, ça fait.
Non, mais c'est tout le problème de l'Europe. Cela dit, il faudra bien qu'on en prenne conscience, parce que là, il y a un vrai décrochement de la France et de l'Europe vis-à-vis des États-Unis. Et toutes les entreprises, quand vous rencontrez les banques,
l'Allemagne commence à bouger quand même sur ce sujet. On voit Christian Lindner là qui commence à bouger, qui est un petit peu.
Oui, mais après, ils ne sont pas d'accord sur les modalités. C'est-à-dire, par exemple, un produit d'épargne européen, ça, ils n'en veulent pas. Alors que c'est la proposition concrète de Bruno Le Maire. Ça, les Allemands, ils disent non, on ne veut pas de ça. Pour aller dans le. Et d'ailleurs, à peu près au même moment, Luca De Meo a envoyé une lettre à tous les dirigeants européens et à tous les candidats aux élections du début du mois de juin. Pour dire en gros à peu près la même chose que Bruno Le Maire, quoi, appeler un sursaut européen et dire justement, les Chinois planifient, Les Américains stimulent et nous, on régule. Donc, il faut qu'on change de logiciel, quoi. Sinon, on va se faire... Ouais. Bah, lui, en l'occurrence, dans son secteur, on va se faire écrabouiller par,
non, mais c'est clair, mais par l'automobile chinoise. Ceci dit, on sent quand même qu'il y a une certaine prise de conscience. Alors, en France, on l'a dit, mais Bruno Le Maire a confié une mission à l'ancien gouverneur de la Banque de France, Christian Noyer. Noyer, sur le sujet. Mmh. Mais Enrico Letta, l'ancien Premier ministre italien, ouais, travaille aussi sur le sujet.
Ouais. Oui, oui, et puis Mario Draghi aussi, ouais. Compétitivité. Enrico Letta, c'est sur le marché unique. Bon, des gens phosphores, quoi. On espère que ça va être utile. Hein. Ce sont tous des gens brillants, ça, Enrico Letta, Mario Draghi, Christian Noyer, on verra pas le contraire. Mais après, il va falloir que ça fasse
des habitudes BFM Business, donc c'est pour ça qu'ils sont forcément brillants. Ouais. Oui.
Le produit d'épargne européen, ça, pour vendre ça, bonjour, hein, quand même. Hein, ça,
déjà que le produit d'épargne français,
c'est des années qu'on avance. Oui, effectivement, là aussi, à peu près au même moment, c'était Emmanuel Macron qui s'exprimait auprès des investisseurs dans le cadre de la journée annuelle d'Euronext. Il avait enregistré une petite vidéo et dit justement, là aussi, il faut qu'on simplifie les règles en France, déjà balayées devant notre porte, pour attirer la réforme de notre PER à nous, des introductions en bourse, etc., pour simplifier et driver davantage l'argent, le fameux fléchage de l'épargne privée vers nos entreprises, nos PME ETI. Bon. Donc il y avait ce discours de Le Maire aux Européens et le discours de Macron à Euronext auprès des investisseurs.
Bon, et bien dossier à suivre. Alors un autre dossier qui a mis du temps à se matérialiser, c'est le test PME, puisqu'il aura fallu attendre 2024 pour qu'enfin on se penche vraiment sur le sujet. Le Sénat y a travaillé aujourd'hui. C'est une proposition de loi qui parle d'instaurer ce qu'on appelle ce test PME. C'est la mesure de simplification pour les entreprises, Guillaume.
Ben oui, en gros l'idée c'est de dire, voilà, avant de voter l'entrée en vigueur d'une nouvelle norme contraignante pour les entreprises, eh ben on la teste, on en teste les effets tout simplement. Ça fait des années que le patronat réclame ça. Écoutez ce que disait François Asselin, le patron de la CPME ce matin sur BFM Business.
Est-ce que ce projet de loi, cette proposition, va impacter négativement la vie des PME? Et quand je dis PME, c'est trois lettres magiques, mais ça touche toutes les entreprises, bien évidemment. Et si la réponse est oui, ça risque d'impacter négativement la vie des PME, eh bien là, on l'expertise, on essaye de comprendre comment. Et si, à l'issue de cette commission, eh bien, on voit qu'on n'a toujours pas la réponse, eh bien, on expérimente. Le législateur aura toujours le choix d'aller contre l'avis, s'il le fallait, de la commission simplification.
En tout cas, il saura ce qu'il fait. Il sait que
ceci dit, il saura ce qu'il fait en responsabilité, et nous saurons à quoi nous attendre.
Enfin, c'est quand même d'une évidence redoutable. Comment peut-on imaginer des normes sans se poser la question de savoir comment ça va avoir, enfin, quelle influence ça va avoir sur la vie quotidienne des entreprises, Thomas?
Ça part toujours d'une bonne intention, finalement.
Oui, mais l'enfer n'est pas fait de bonne intention.
Exactement. Ils sont pas payés pour ça. Hein, et les sénateurs ne sont pas élus ou nommés pour ça.
Pour faire des études d'impact.
Oui, pour faire des études. Enfin, oui, ça, ils devraient le faire. Mais,
bah oui,
non, mais sur l'impact sur les PME, donc eux, ils sont là pour légiférer.
Ah non, mais là, c'est ce qu'ils font. Oui. Ils légifèrent. Et après, effectivement, l'idée, c'est de mettre en place un comité.
Oui, non, mais alors voilà, justement.
Il y aurait des économistes de l'INSEE, il y aurait des... Bon, voilà, et effectivement, ces personnes-là qualifiées, ces personnalités qualifiées, parce que là, ce qui est un peu étonnant, c'est que c'est un texte du Sénat, mais à la fin des fins, c'est pas... Non, mais surtout, c'est pas le texte définitif. C'est-à-dire qu'il va y avoir le projet de loi de Bruno Le Maire au Sénat début juin. C'est là où il y aura le vrai test PME, parce que ça va être une des mesures fortes du projet de loi de simplification, de la loi Pacte 2. Donc bon, là, c'est un peu un baroud d'essai.
Ce qui me fait peur, c'est
le texte du Sénat.
Justement, cet organe qu'on veut mettre en place dans le cadre de cette...
Oui, c'est un comité.
Au Conseil à la simplification, donc rattaché au Premier ministre, doté d'une commission administrative consultative chapeautée par un président chargé d'animer un réseau de correspondants à la simplification.
Mais simplifier, c'est compliqué, Guillaume.
Rien que ça, déjà, vous dites, est-ce qu'on peut encore plus compliquer les choses plus qu'autre chose, quoi.
Ouais. C'est un peu vrai. Bon, l'intitulé est compliqué, comme souvent en France. Après, peut-être que c'est peut-être comme ça que c'est fait dans d'autres pays, avec des noms compliqués et que ça fonctionne.
Mais c'était le cas avec Thierry Mandon et Guillaume Poitrinal.
Ouais, mais le... Non, mais il n'y avait pas de... Il y avait un comité d'évaluation des normes, mais pas de mesure d'impact des lois. C'est
Il y a
pas
des
mesures d'impact des lois. Après, je rappelle juste que à la base, c'est un engagement d'Elisabeth Borne qu'elle avait fait au moment d'impact PME, donc justement sur notre antenne, sur BFM Business. Et ça part de là. La mesure, elle est portée par la CPME de longue date, mais l'engagement politique, il a été pris à ce moment-là par Elisabeth Borne.
J'ai peur que l'organe de consultation
le temps que ça arrive à l'organe de consultation, ça peut prendre du temps.
Non, mais bon.
Il y aura des parlementaires, il y aura des chefs d'entreprise, mais enfin, on verra comment.
Bon, l'objectif, en tout cas, c'est quand même de desserrer ce carcan normatif. Voilà, donc à suivre.
Bon, ainsi va le monde. Merci à tous d'être venus ce soir. Mathieu Pechberti qui était avec nous, Thomas Asportas, merci beaucoup, Thomas. Edwige, on se retrouve demain à 18h10.
Ah, bah tiens, justement, avec un ancien ministre, Olivier Dussopt. Ah. Donc, c'est intéressant de voir ce qu'il va dire par rapport à tout ça. On va parler d'assurance chômage aussi. Est-ce que l'étatisation cotisations, l'assurance chômage, est-ce que c'est une bonne idée ou pas. On reviendra un peu sur le climat social. Lui qui est président de Territoires et Progrès, donc intéressant de voir un peu quelle est sa vision. Peut-être qu'il a un petit peu plus de liberté dans son langage.
Il doit regarder ça avec un peu plus de décontraction qu'il y a quelques...
Bah, c'est le numéro 2 de Renaissance maintenant.
Hein. Oui, oui. En général.
La campagne européenne, c'est...
Olivier Dussopt, donc c'est demain soir dans la grande interview. Et en attendant, eh bien, restez avec nous. On continue de décrypter l'actualité économique avec les meilleurs experts.
On a beaucoup de choses à vous raconter. Le dossier Atos, donc communiqué de Bercy, qui nous dit qu'une solution sera trouvée. Une solution nationale de protection des activités stratégiques. On va vous raconter ça, puis on va décrypter toute l'actualité. Le plaidoyer, une fois plus, de Bruno Le Maire pour l'union des marchés capitaux.
Plus ça, plus bien. Sujet. À tout de suite.
Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.